Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excellences, chers révérends pères, chers messieurs les abbés, chers pères et frères, chers fidèles, chers séminaristes qui allez revêtir la soutane dans un instant, après vous y être préparés par une retraite prêchée par nos chers pères dominicains, vous allez devenir les témoins visibles de notre Seigneur Jésus-Christ. À la vue de votre soutane dans la ville, les catholiques et ceux qui ne le sont pas se rappelleront de Jésus-Christ, de l'Église, de la religion catholique, de la foi. Vous serez d'une façon concrète, pour ceux qui vous verront, l'Église visible, les membres de l'Église visible, catholique, romaine, apostolique. Car celui qui porte la soutane a gardé la même foi, la même doctrine que celle des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'un des quatre signes caractéristiques qui permettent de reconnaître l'Église visible est l'apostolicité. C'est grâce à notre fondateur, Monseigneur Lefebvre, que l'on peut voir encore en France et même ailleurs dans le monde des prêtres en soutane. Et c'est d'ailleurs grâce à lui aussi que la messe catholique a été maintenue et sauvée. En effet, en France, c'est en 1963 déjà que certains évêques commençaient à autoriser les prêtres à ne plus porter de soutane. Et on avait parlé de clergyman, mais en réalité, on est passé immédiatement à l'habit civil. Et c'est ainsi que le prêtre est devenu l'homme invisible, le prêtre invisible. On ne les voit plus. Ils ont disparu de nos villes. Et c'est eux, pourtant, qui parlent d'église visible. En 1960, ceux de ma génération, nous, nos jeunes prêtres, nos jeunes professeurs de l'école à Paris, Sainte-Croix, portaient tous la soutane. C'était juste avant le Concile Vatican II. Or, l'aggiornamento de l'Église, la mise au goût du jour de l'Église, son ouverture au monde, son dialogue avec l'homme moderne, ont fait disparaître la soutane. La soutane montre donc l'homme de Dieu. Ou le futur prêtre, qui doit être un autre Christ, alter Christus. Si l'habit ne fait pas le moine, il aide à le reconnaître. Celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Être fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'imiter. C'est être fidèle à sa parole, à sa doctrine. C'est cela l'imitation de Jésus-Christ. Fidèle à ses exemples. Fidèle à ses paroles, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est-à-dire, ma doctrine demeurera invariable, inchangée, définitive, parce qu'elle est éternelle. Notre Seigneur le déclarait dans le temple de Jérusalem, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. » Et je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que passent le ciel et la terre, pas un seul iota ou trait de la loi ne sera changé ou supprimé. Depuis 45 ans environ, environ un millier de jeunes gens, de jeunes hommes, ont revêtu la soutane dans les séminaires de Mgr Lefebvre. Souvent, les familles, les parents, ne comprenaient pas la décision de leur fils à cause de l'opposition et de l'hostilité des évêques. Les évêques de France reprochèrent à la fraternité Saint-Pédis de ne pas accepter la nouvelle messe de Paul VI, qui a été réalisée, comme vous le savez, en collaboration avec des pasteurs protestants. Plus tard, 35 ans plus tard, le pape Benoît XVI déclarait que la messe traditionnelle n'avait jamais été canoniquement interdite, que par conséquent, elle avait toujours été autorisée, contrairement à ce qu'avaient déclaré les évêques. Donc, en ce jour, nous pensons particulièrement aux familles de ces jeunes lévites, futurs lévites. Quant à leur formation spirituelle et intellectuelle reçue dans nos séminaires, sa valeur est reconnue publiquement aujourd'hui, même par le Vatican. Pour assurer donc les familles qui ne connaissent pas encore les raisons de la crise de l'Église, crise terrible, comme jamais l'Église n'en a vu, et chaque jour qui passe nous en apporte une preuve. Nous pouvons faire observer que, par exemple, le premier directeur du séminaire, l'abbé Masson, après l'avoir quitté, a été reçu au Vatican et s'est vu décerner le titre de Monseigneur, que plusieurs prêtres formés par la fraternité, qui en sont sortis après quelques années, ont été nommés secrétaires de plusieurs évêques dans le monde. Au Chili, par exemple, l'abbé Salas. À Paris, l'abbé Tillier, secrétaire du cardinal 23 actuellement. C'est un fait que, bien sûr, nous déplorons et n'approuvons pas. Mais c'est un fait. On appelle cela un argument ad hominem. Le jour où Dieu décidera de sauver l'Église et les nations chrétiennes en mettant fin à la religion des droits de l'homme instituée au Concile Vatican II, en convertissant ou en remplaçant les autorités défaillantes, ce jour-là, comme le prévoyait notre fondateur, l'Église pourra compter sur des centaines de prêtres qui auront reçu la meilleure formation catholique. Et c'est aujourd'hui le cas pour ces séminaristes qui ont la chance de pouvoir profiter des cours des pères dominicains dont c'est la spécialité. Et en outre, d'avoir l'exemple d'une vie monastique, l'exemple des vertus chrétiennes, l'humilité, l'obéissance, la charité. Mais aujourd'hui, le danger pour l'œuvre de Mgr Lefebvre est qu'elle est en train de choisir la voie d'un accord prématuré avant la conversion, avant cette conversion des autorités. Accord qui la conduira au suicide, d'abord au silence, puis au suicide, comme nous en donnait l'exemple une dizaine de groupes et même un grand diocèse au Brésil, qui, sous prétexte d'obéissance, fausse obéissance, ont abandonné la tradition, abandonné le combat de la foi, la fidélité. Votre soutane, cher séminariste, est une prédication, une confession de la foi. Celui qui m'aura confessé devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Et celui qui m'aura renié devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Le prêtre est l'homme de la foi. Il confesse la foi, la doctrine de la foi. La foi, comme vous le savez, est une vertu surnaturelle par laquelle, aidés de la grâce de Dieu, nous croyons vraies les choses que Dieu nous a révélées, c'est-à-dire la doctrine catholique. Avec la foi, c'est à l'autorité divine que nous croyons et que nous obéissons. Aucune autorité sur terre ne peut contredire cette autorité divine de la foi. Saint Paul nous le dit, nous les apôtres, nous n'avons aucune autorité contre la vérité, contre la foi, contre la doctrine de la foi, mais au contraire, pour la diffuser. Nous les apôtres, nous n'avons d'autorité que pour l'édification des fidèles, votre édification dans la foi et la morale. Nous n'avons aucune autorité pour votre destruction, pour diminuer ou détruire votre foi et votre morale, comme on l'a vu particulièrement au cours du dernier synode à Rome, qui autorise pratiquement et qui va permettre la multiplication des divorces. Saint Paul nous dit aussi, si nous-mêmes, les apôtres, ou un ange venu du ciel, nous prétendions vous enseigner un évangile différent, une religion différente, vous devrez nous considérer comme excommuniés, comme des ennemis de la religion, de la foi. Et dans ce cas, évidemment, pas d'autorité, et donc pas d'obéissance. Et c'est pourquoi Saint Pierre répondit au grand prêtre de la synagogue, « Il faut obéir à Dieu avant que d'obéir à des autorités religieuses infidèles, à des hommes. » Ce qui signifie qu'il faut désobéir aux hommes d'Église s'ils prétendent nous obliger à désobéir à Dieu, à désobéir à la foi, à les suivre dans leur désobéissance à Dieu. C'est ce que font les modernistes. Les modernistes et les libéraux dans l'Église ont désobéi pendant près de 2 siècles aux encycliques des papes. Et lorsqu'ils ont pris le pouvoir, au moment de la mort du pape Pie XII, et surtout pendant le Concile Vatican II, alors ils ont découvert l'obéissance. Et ils prétendent, au nom d'une obéissance aveugle, servile, inconditionnelle, absolue, nous imposer leur nouvelle religion, la religion des droits de l'homme, religion des droits de l'homme qui est en train d'assassiner nos pays chrétiens en organisant l'invasion de ces pays. Nos ancêtres avaient la chance d'avoir des rois qui repoussaient les invasions à Poitiers, à Vienne, à Lépante. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Nous leur ouvrons les portes, comme certains avaient ouvert les portes de l'Espagne à la conquête des Maures. Saint Thomas nous explique que Saint Paul a eu raison de résister à Saint Pierre et de le reprendre en public. Et pourtant, Saint Pierre était le premier pape désigné personnellement par notre Seigneur pour être la pierre sur laquelle il construirait son Église. Et cela, nous dit Saint Paul, Voyant que Pierre ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je lui résistais en face, parce qu'il était digne de blâme, et cela en présence de tous. Pour comprendre le succès des séminaires de Mgr Lefebvre, pourquoi tant de jeunes s'y sont présentés, et certains après un séjour dans les séminaires conciliaires. Eh bien, il existe le récit d'un médecin très connu dans nos milieux, le docteur Dickes, que la vocation sacerdotale avait conduit au séminaire de Paris au moment du Concile Vatican II. Donc, au début, tout était magnifique. Et donc, c'est lui-même qui le raconte dans ce récit qu'il avait tenu au jour le jour. Il rentre donc au mois d'octobre 1965, à la fin du concile. Jean-Pierre Dickes entre au séminaire de Paris à Issy-les-Moulineaux. C'est à l'intérieur même du séminaire qu'il va vivre en quelques mois la gigantesque mutation de l'Église et de la société, qui conduira d'ailleurs à mai 68. Jour après jour, pour lui-même, il tient la chronique des changements, des remises en cause, des crises. Mais les scandales commencent à arriver. Quelques-uns d'entre nous pressentaient qu'après ces quelques premiers jours passés au séminaire, et ces premières difficultés, le paradis découvert à notre entrée n'était pas ce que nous attendions, et nous nous demandions avec inquiétude vers quoi nous cheminions. 8 mois plus tard, à partir du début du mois de juin, le séminaire était pratiquement en perdition, alors que lors de l'entrée, il y avait 238 séminaristes, et seuls les nouveaux ne portaient pas la soutane, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'une centaine de soutanes. L'oraison était devenue facultative, ainsi que les cours du séminaire. On allait à la messe si on en avait envie, soit au séminaire, soit à Saint-Étienne, une paroisse proche, soit nulle part. Les rangs s'éclaircissaient d'un cours à l'autre. On s'absentait sans aucune gêne. L'atmosphère était délétère. Certains trichaient-ils aux examens? Qu'importe, après tout, les examens? Allions-nous devenir des prêtres en fonction de notre science? Certains étaient là pour rappeler à qui mieux qu'une formation n'était guère utile. De la philo, pourquoi faire? De la théologie, pourquoi faire? Puisque le rôle du prêtre était essentiellement de s'investir dans l'action sociale, syndicale, sinon politique. Après 20 siècles de christianisme, il y avait encore des séminaristes pour dire que la prière ne servait à rien, que le vrai combat du prêtre était dans les usines et non dans les églises. Le séminaire était devenu en fin d'année un moulin ouvert à tous les vents, où l'on entrait et sortait à sa guise pour aller faire de l'action apostolique, pour rendre visite à des copains, pour aller au cinéma ou au restaurant. Et les séminaristes rentraient à n'importe quelle heure de la nuit. Chacun faisait ce qu'il voulait, se levait à l'heure qui lui plaisait. À chacun de se prendre en charge lui-même, plus question de discipline chez des chrétiens adultes. Les pères sulpiciens, qui étaient chargés de leur formation, étaient dépassés. Le laxisme que le directeur du séminaire avait toléré se retournait contre l'institution. Il était évident qu'il aurait fallu mettre ces séminaristes au pas dès le début, en s'appuyant sur les éléments les plus stables, les plus pieux, ceux qui cherchaient Dieu par le silence et la prière. Ils étaient nombreux. Mais le concile avait libéré des forces que plus personne ne pouvait contrôler et ne peut toujours pas contrôler aujourd'hui. Au nom du Concile, on pouvait tout admettre, tout accepter, tout tolérer dans cette institution d'Église. L'effondrement des institutions de l'Église après le Concile, et même à la fin du Concile, s'explique par l'effondrement doctrinal qui s'est produit au cours du Concile. La notion de règlement n'existait plus. Pire, la notion de vérité n'existait plus. Aucune institution humaine ne pourrait subsister dans des conditions pareilles. L'imitation de Jésus-Christ, c'est donc mettre en pratique ses enseignements et ses exemples. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. La perfection chrétienne consiste dans la charité. D'abord la charité pour Dieu, ensuite pour le prochain. Mais sans la foi, il n'y a pas de charité. Et donc c'est une des vertus particulières de notre Seigneur, que notre Seigneur nous montre dans son incarnation, l'incarnation du Verbe, et au cours de toute sa vie, en lavant les pieds de ses disciples, par exemple, et particulièrement, bien sûr, au cours de sa passion. Et c'est probablement l'une des causes qui a provoqué le modernisme. D'ailleurs, c'est Saint Pie X qui le dit, n'est-ce pas? L'une des causes du modernisme, c'est l'orgueil, intellectuel de ces théologiens qui ont prétendu réformer l'Église. Et à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Donc aujourd'hui, quand nous assistons à ce qui est vraiment inimaginable, au plus haut sommet de l'Église, les scandales se succèdent. Il n'y a pas de semaine qui passe sans que des paroles ou des gestes scandalisent les fidèles. Même une des plus importantes revues en Amérique du Nord montrer une photo sur la première page du pape en demandant, en posant la question, le pape est-il catholique? Et on comprend que certains commencent à se le demander, puisque au cours d'entrevues dans des journaux importants, en Italie par exemple, le pape dit: pour moi, un Dieu catholique n'existe pas. C'est donc qu'il croit dans le Dieu de toutes les religions, n'est-ce pas? Mais le Dieu catholique, c'est la Sainte Trinité. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis alors, dans le domaine de la morale, bien, il y a eu ce synode, et puis ces réflexions, n'est-ce pas? Qui suis-je pour juger les personnes homosexuelles? Or, le prêtre, l'évêque, quand il reçoit l'investiture, on lui dit, tu ne devras pas appeler bien ce qui est mal, ni mal ce qui est bien. Donc, le bon Dieu de toute éternité a prévu cette situation qui a lieu à cause de nos péchés, à cause de la tiédeur de l'ensemble des chrétiens et du refus de la foi aussi, qui se traduit par une multiplication de l'immoralité. Mais, encore une fois, Dieu est maître de tout. Et le jour où il le voudra, eh bien, ce châtiment prendra fin. Nous devons donc garder l'espoir, la confiance, et continuer à faire tout pour conserver la foi catholique, la prière, par la prière du rosaire en particulier, comme nous l'a indiqué Notre-Dame, il y a bientôt 100 ans. Donc, vous, chers séminaristes, vous suivez le commandement de notre Seigneur à ceux qui ont la vocation. Allez enseigner les nations, ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.